Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui encore à Marseille que l'équipe de Priorité Santé vous donne rendez-vous à l'occasion de la 26e édition des Actualités du Pharo. Conférences, symposiums, communications à l'initiative du groupe d'intervention en santé publique et en épidémiologie. Rencontres scientifiques annuelles, oui, à l'exception notable de l'an dernier, cette année 2020, où comme tant d'autres projets, l'événement a été bouleversé par l'actualité sanitaire. Un nouveau virus qui a tout changé et remis sur le devant de la scène le travail des chercheurs et cliniciens en infectiologie, dont l'essentiel des travaux se cantonnait jusque-là assez loin des préoccupations premières du grand public. Le Covid a donc changé la donne. Ce coronavirus a d'abord attiré la curiosité avant de susciter l'inquiétude et d'affecter une bonne partie de la population de la planète. Ce ici au rang de pandémie dont les effets sanitaires et sociaux ne sont pas encore quantifiables au moment où nous parlons. Ce Covid qui a redistribué les cartes, après l'incrédulité initiale, la maladie émergente a réactivé l'intérêt de la communauté scientifique pour les infections, l'épidémiologie et au-delà, la prévention ou la vaccination. Au cours de cette émission, nous allons donc essayer de comprendre quel a pu être l'effet de cette pandémie de Covid sur la gestion des autres grandes infections qui sévissent toujours sur la planète, en particulier dans le contexte tropical, paludisme, fièvres hémorragiques, péril fécal, et nous allons donner la parole à trois spécialistes. Trois infectiologues et spécialistes des maladies tropicales avec nous ici à Marseille, à deux pas de l'hôpital de la Timone qui accueille ce rendez-vous qui permet d'échanger connaissances et expériences. Vous intervenez tous les trois dans le cadre du symposium du Collège des universitaires des maladies infectieuses et tropicales. Professeur Jean-François Fauché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Limoges. Avec vous, nous évoquerons les actualités du paludisme. Professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny en région parisienne. Nous parlerons en votre compagnie du péril fécal. Et professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine des voyages. Et avec vous, nous parlerons des fièvres hémorragiques, même si bien sûr, chacun d'entre vous peut réagir, puisque vos domaines sont transversaux. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez apporter une information complémentaire, le micro vous est bien évidemment ouvert.
Priorité santé sur RFI.
Actualité du Pharo rattrapée par l'actualité du paludisme, puisque ce mercredi, il y a 48 heures à peine, l'OMS, par la voix de son directeur général, a recommandé le déploiement massif chez les enfants du premier vaccin contre cette maladie parasitaire. Professeur Jean-François Fauché, une question très simple, pourquoi maintenant ?
J'ai pas de réponse scientifique à cette question. Ce qui est sûr, c'est que il y a une étude pilote de grande envergure qui se déploie là depuis 2 ans au moins dans certaines régions d'Afrique pour évaluer l'efficacité de ce vaccin. Alors je ne connais pas l'argumentaire qui existe sans doute derrière les toutes récentes recommandations de l'OMS. Alors ça peut être le futur proche, mais pour l'instant ça reste quand même une intervention de santé publique qui est programmée, qui est recommandée et qui n'est pas rentrée dans son application à large échelle.
Ça veut dire pour l'instant on est encore au niveau de l'annonce. Ce vaccin, pour être précis, c'est le RTS,S développé par un laboratoire britannique GSK, GlaxoSmithKline. Il apporte quelle protection ? Est-ce qu'on a des résultats d'études, professeur Christophe Rapp ? Pour l'instant, l'expérimentation a été plutôt dans des pays d'Afrique australe et Afrique de l'Est. Il y a eu le Ghana aussi, le Ghana, le Kenya, le Malawi. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Alors en fait, ce vaccin, c'est un outil supplémentaire dans la stratégie globale de lutte contre le paludisme. Il peut apporter chez les enfants en bas âge une réduction des formes graves et des décès. Il va diminuer l'importance de l'anémie. Donc il va jouer sur la létalité du paludisme et on sait que ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut dans cette maladie. Donc c'est un vaccin intéressant dont l'efficacité dans les premières études se situait aux alentours de 40%. Donc c'est pas du tout un chèque en blanc contre le paludisme, hein. C'est une mesure supplémentaire qui pourrait permettre de diminuer la létalité chez les enfants.
Avec justement ces études, efficacité donc, on l'a bien entendu, inférieure à 50%. Professeur Bouchot, peut-être que si on en parle autant de ce vaccin depuis 48 heures, c'est simplement parce que c'est la première fois qu'il y a une recommandation de vaccination pour le palu, parce que trouver un vaccin contre une maladie parasitaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué.
Alors c'est très compliqué, et en matière de paludisme, ça fait 50 ans qu'on travaille sur un vaccin, et ça fait 50 ans que jusqu'à présent on butait pour trouver quelque chose d'efficace. Alors ce vaccin, il n'est pas parfait, il est même loin d'être parfait. 40% d'efficacité, c'est sur 2 ou 3 ans de suivi. Sur des suivis plus longs, à 7 ans, on est sur des efficacités beaucoup plus faibles, qui sont au-dessous de 10%.
Et d'autant plus qu'il y a un schéma vaccinal compliqué, ça veut dire qu'il faut en plus respecter toutes les étapes.
Oui, il faut se souvenir qu'historiquement, le schéma était à 3 injections. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, et il a fallu rajouter une 4e injection. Et d'un point de vue logistique, c'est un vaccin qui sera très compliqué à mettre en place.
Ça veut dire, surtout par rapport aux populations qui sont visées, faire venir les parents régulièrement avec les enfants, à des dates précises. On sait qu'il y a les problèmes de distance, on sait qu'il y a les problèmes d'accès justement aux centres de santé. Ça veut dire que toute cette logistique, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
C'est compliqué et coûteux. Et après, on est toujours dans cette relation entre le bénéfice pour la population, et notamment les enfants, et le coût. Alors manifestement, là, l'OMS a fait le choix de privilégier le bénéfice par rapport au coût, parce que dans une réflexion purement de santé publique, dans la balance bénéfice-coût, il n'est pas évident que ce vaccin-là soit le champion.
Est-ce que cette vaccination, professeur Jean-François Fauché, devrait concerner des aires géographiques en particulier ? On imagine qu'il s'agit là du paludisme saisonnier.
Alors, il ne s'agit pas spécialement du paludisme saisonnier.
Ça va être pour tous les enfants, par exemple, d'Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. Mmh. C'est comme ça que les choses sont envisagées. Il n'y a pas de restriction à une zone. Alors évidemment, plus la transmission du paludisme est élevée et plus l'intervention de vaccination de masse sera utile.
Et ça veut dire que pour tout ce qui était en œuvre jusque-là, qu'il s'agisse des traitements par voie orale ou des mesures de protection, tout cela devra être maintenu.
Bien sûr. Et je pense qu'un des grands messages à garder à l'esprit, c'est effectivement l'adhésion aux mesures de prévention du paludisme dont on a déjà parlé, mais aussi de la prévention des complications du paludisme qui consiste à consulter précocement s'il y a une fièvre, pour avoir un test rapidement et un traitement, hein, le fameux accès aux traitements, aux dérivés de l'artémisinine, hein, qui sont recommandés par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, a raison. Et on se rend compte d'ailleurs que quand on reçoit des enfants dans un état catastrophique dans les hôpitaux qui vont malheureusement pour une bonne partie d'entre eux décéder du paludisme et qu'on interroge sur ce qui s'est passé auparavant, eh bien il y a eu des occasions manquées de traiter rapidement et efficacement un paludisme avant qu'il ne s'aggrave.
C'est toujours ce qu'on dit, une fièvre douteuse, on va à l'hôpital, on ne se pose pas de questions, hein, on essaie pas d'attendre 48 heures, voir si ça baisse.
Alors, pas forcément à l'hôpital. Hein. Dans certaines
régions. Les centres
régions,
de santé.
Ou des agents de santé communautaires.
On va pouvoir faire un test rapide.
Qui peuvent tout à fait, qui ont été formés à ça, faire des tests rapides et à traiter précocement.
Ça veut dire, professeur Rapp, pour conclure ce chapitre, évidemment, quand on annonce un nouveau vaccin, une campagne de vaccination, il y a de l'espoir. Mais le plus important à ce moment-là, parce qu'on n'est que dans l'annonce, c'est on ne baisse pas la garde.
Oui, bien entendu, toutes les mesures sont synergiques. Et donc, la moustiquaire imprégnée, le dépistage, le traitement précoce, la chimioprophylaxie intermittente, ça reste les outils de base. Le vaccin est une arme supplémentaire qu'il va falloir maintenant mettre en place, décliner sur le terrain.
Et la lutte, elle se fait aussi sur place. Professeur Olivier Bouchot, on élimine les eaux stagnantes, on continue autour de soi d'éliminer tout ce qui peut contribuer à la prolifération des moustiques.
Oui, c'est encore un outil complémentaire, alors qui échappe en partie aux familles et aux ménages, parce que ça c'est plus des outils d'intervention collective, encore qu'on puisse faire de la démoustication à l'intérieur des habitations, mais tout ça ce sont des armes complémentaires pour finir par arriver à bout du paludisme, si jamais on peut y arriver.
Qui est toujours un objectif.
C'est toujours un objectif, parce que le paludisme, même si globalement ça s'est amélioré, reste quand même un problème de santé majeur en Afrique principalement.
Alors, je disais tout à l'heure, des infectiologues sous les projecteurs depuis plus d'un an maintenant, au chevet des patients d'abord, bien sûr. Ensuite, dans l'observation, la recherche, et puis pour certains, sur la scène médiatique. Alors, on parle de santé tropicale. On va bien sûr pas parler d'une seule maladie du Covid-19 aujourd'hui, mais quand même, on va en parler pour savoir, par exemple, comment cette crise sanitaire internationale a pu jouer sur les grandes infections, toutes ces maladies dont vous occupiez tous les trois avant l'arrivée du coronavirus. Vous d'abord, professeur Christophe Frappe, vous occupez juste de ces infections depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce que ça a changé, le Covid, dans votre pratique et dans votre vision des choses ?
Alors non, le Covid pour nous, c'est une maladie nouvelle avec un impact mondial. Donc c'est vraiment une des premières pandémies que l'on a eu à gérer. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand même l'exceptionnelle rapidité de la mise en place du vaccin, qui est quand même pour nous, les infectiologues, notamment avec ces nouvelles techniques d'ARN messager, un changement capital dans le monde de la vaccinologie. Et puis après, effectivement, une maladie nouvelle qu'on a appris à gérer et une recherche active sur les traitements. On n'a toujours pas, à l'heure où nous parlons, un traitement efficace contre le coronavirus, mais on a maintenant des principes de prise en charge. Donc là, il y a beaucoup de satisfaction. Par contre, qui dit pandémie, dit santé mondiale. Et là, on a un problème de vaccination, puisqu'aujourd'hui, on parle de médecine tropicale. On a un problème de vaccination dans les pays à revenus limités. Et on sait que, autant en Europe, plus de 70% de la population est vaccinée, autant en Afrique, on ne doit pas dépasser 3 ou 4%. Donc, il y a vraiment maintenant, je dirais, une deuxième mi-temps du Covid qui est de vacciner toute la planète dans l'intérêt de tous, puisque sinon, on va faire circuler le virus avec le risque d'émergence et donc de peut-être fabrication de nouveaux vaccins, etc.
D'autant
donc,
plus
il y a un enjeu mondial.
La problématique est double. On a eu au nord les interrogations, la défiance par rapport au vaccin sur une minorité de la population. Dans les pays du sud, le problème, c'est déjà d'avoir un vaccin.
Oui, le problème, c'est déjà d'avoir un vaccin. Et malgré l'organisation internationale, le système qui a été mis en place, COVAX, etc., ne fonctionne pas parfaitement. Et il y a de nombreuses difficultés à la fois de budget et de logistique.
Pas parfaitement, c'est vraiment du langage diplomatique, on va dire. Pour être concret, professeur, vous disiez, on a appris à vivre aussi dans les hôpitaux avec cette maladie. Les protocoles ont changé. Du coup, on a eu aussi une meilleure résistance des patients, y compris sur les formes graves. Dans l'hôpital où vous exercez, l'hôpital américain de Neuilly, expérience concrète, c'en est où cette prise en charge ?
Si vous voulez, là maintenant, il y a une décrue importante de l'épidémie en métropole et donc on a bien sûr beaucoup moins de patients. Les patients hospitalisés sont vraiment des sujets non vaccinés et à risque et de rares patients fragiles qui ont été vaccinés et qui n'ont pas répondu à la vaccination. C'est un des sujets d'actualité. C'est la question de la prophylaxie par des anticorps monoclonaux pour les sujets qui ne répondent pas au vaccin. C'est un petit peu ça l'actualité. Et puis moi, mon hôpital est international. Nous recevons des sujets rapatriés de pays où le virus circule, et notamment en Afrique subsaharienne.
Alors, même question tour de table, professeur Olivier Bouchot. D'abord sur le caractère inédit, tout cet intérêt d'un coup, tous les efforts, les moyens concentrés sur cette maladie. D'ailleurs, peut-être encore plus que ce qu'on avait connu au moment d'Ebola, même si là aussi, il y avait eu quand même, on peut dire, un certain emballement. Vos regards sur les conséquences du Covid, sur les maladies qui vous occupent, on va dire en temps normal, est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont été un petit peu délaissées ?
Si on regarde la globalité, absolument. Et d'ailleurs, on est assez inquiet sur les conséquences de cet envahissement de l'espace de santé, si je puis dire, par la Covid, de ce qui se passe justement dans le champ du paludisme. Alors déjà, depuis quelques années, le nombre de cas de paludisme commençait à remonter. Là, pendant pratiquement deux ans, les problèmes de lutte contre le paludisme ont quand même beaucoup ralenti en raison du Covid. Et donc, on peut être inquiet sur l'évolution du paludisme. En matière de VIH, c'est assez inquiétant parce que le dépistage a beaucoup, beaucoup diminué partout dans le monde, y compris en Afrique, toujours pour les mêmes raisons. Et donc, il va y avoir moins de cas d'infection par le VIH découverte. Donc, ça veut dire plus de personnes qui restent à risque de transmettre autour d'elles. Donc parce qu'ils ne prennent pas les traitements. Donc, avec un rebond de l'incidence à cause de nouvelles contaminations qu'on aurait pu éviter. Et donc oui, la Covid, au-delà du fait que ça nous a tous totalement sidérés, parce que je pense que la communauté humaine, mais également la communauté scientifique et particulièrement médicale, n'y croyait pas au début. On a tous été pris par surprise, si je puis dire. Et même nous, infectiologues, alors que nous sommes habitués à ces phénomènes d'épidémie brutale. Et ça a des conséquences directes par le Covid même, mais ça a des conséquences indirectes par le fait que beaucoup de maladies ont été délaissées pendant cette période-là.
Et du côté de votre hôpital, Avicenne, où en est le flux, la prise en charge de ces patients Covid?
Alors comme vous le savez, en Seine-Saint-Denis, on a été extrêmement touché, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres endroits en France métropolitaine. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Dans mon propre service, on n'a plus que 2 patients Covid, alors qu'à la période la pire, en 2020, le service entier était plein de patients Covid, et même on a obligé de déménager dans un autre service pour avoir plus de lits disponibles. Donc ça va beaucoup mieux. Attention, on n'est pas sorti d'affaire. La vaccination est une arme absolument indispensable et qui est pratiquement la seule qui va permettre de finir par éteindre cette épidémie, mais on va la traîner encore pendant probablement plusieurs années.
Alors il y a eu, professeur Jean-François Fauché, des communications sur l'impact de la crise sur la prévention, la prise en charge des infections, un VIH, tuberculose, paludisme, avec justement ce constat, on va dire pour l'instant, peut-être parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de recul, une certaine inquiétude.
Oui, tout à fait. Et donc une enquête qui a été faite auprès d'institutions qui procurent des soins préventifs, curatifs, pour voir ce qui s'est passé pendant la pandémie. Effectivement, il y a eu un détournement des moyens la réponse vis-à-vis de la pandémie qui s'est retournée contre effectivement le déploiement de certains efforts de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et qui a déstabilisé des systèmes de santé. On en a parlé quelques minutes.
Vous êtes infectiologue à Limoges, donc une autre région du pays, on va dire vraiment dans les terres. Professeur Fauché, dans votre établissement hospitalier, elle en est où la prise en charge des patients Covid?
Alors, moi j'exerce dans une région qui a été moins touchée que d'autres par la pandémie Covid en France. Bon, on a été très déstabilisé au plus fort de la pandémie. Actuellement, il y a eu un très grand reflux. Par exemple, dans le service de soins aigus d'hospitalisation des maladies infectieuses actuellement, eh bien, on n'a plus que quelques cas de Covid et on exerce pratiquement l'infectiologie qu'on exerçait habituellement avant la pandémie.
Priorité santé sur RFI à Marseille à l'occasion des 26e actualités du Pharo.
La Timone.
Professeur Christophe Rapp, lors de ce symposium, votre intervention porte sur les fièvres hémorragiques. Là, on revient vraiment aux actualités du Pharo. Fièvre au pluriel. C'est vrai que si le grand public connaît l'une d'entre elles plus que d'autres, forcément Ebola, ces autres virus sont moins souvent cités. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau? Qu'est-ce que ça recouvre, les fièvres hémorragiques au pluriel?
La fièvre hémorragique, c'est un cadre extrêmement large, syndromique, de maladies qui sont révélées par de la fièvre et non d'ailleurs pas toujours des hémorragies. Et ça comporte de nombreuses familles de virus. Les deux plus connus, c'est Ebola et Marburg, qui sont des filovirus. Mais il y a aussi en Afrique un virus qui s'appelle la fièvre de Lassa, qui est endémique en Sierra Leone et qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a une autre fièvre hémorragique qu'on appelle Crimée-Congo, qui existe bien sûr en Afrique et qui commence à envahir également un petit peu l'Europe, puisqu'il y a eu des cas autochtones en Espagne et dans d'autres pays. C'est une fièvre hémorragique qui est liée à des piqûres de tiques de bœuf.
Et justement, vous parlez des tiques, les vecteurs sont différents en fonction des maladies.
Bien sûr, donc certaines sont vectorielles et puis d'autres maladies comme les filovirus Ebola ou Marburg. L'origine de la maladie est plus complexe. C'est des maladies avec un réservoir de chauves-souris, des hôtes intermédiaires qui sont les grands primates et puis des ruptures de barrières d'espèces qui ont un mécanisme beaucoup plus complexe sur Ebola qu'on n'a toujours pas complètement élucidé.
En termes de géographie, professeur Christophe Rapp, est-ce que certaines régions sont particulièrement concernées?
Il y a toujours une interaction entre l'hôte et l'environnement. Et donc, effectivement, les tiques de bœuf, c'est dans des régions d'élevage. Ebola, Marburg, c'était dans des grandes forêts d'Afrique, le Congo, etc. Mais l'épidémie de 2013 nous a montré que finalement, sa notion de géographie était fragile, puisque ces maladies sont découvertes dans de plus en plus de pays. Et donc, le raisonnement, c'est que la veille épidémiologique, l'alerte doit être généralisée à tous les pays d'Afrique. Et il y a des systèmes de surveillance qui sont en train de se mettre en place, puisqu'on a eu une alerte récente en Côte d'Ivoire, où jusqu'à présent, il y avait eu un seul cas de maladie à virus Ebola décrite en 2004. Donc c'est plus maintenant une nouvelle émergence pour l'Afrique avec un système de surveillance qui doit être panafricain et très organisé, comme ça l'est maintenant en Guinée, où une épidémie récente en 2021 a été rapidement détectée.
Vous citez la Guinée justement, récemment concernée par des cas d'Ebola, Marburg, fièvre de Lassa. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle fréquence sur un seul territoire ?
Il y a beaucoup de forêts. Il y a vraiment visiblement l'écosystème favorable. Et puis il y a aussi, si on veut être positif, le fait qu'on est capable de les détecter maintenant. Mmh. On a mis en place des outils de diagnostic, on a des systèmes de surveillance. Peut-être que ces cas qui étaient sporadiques n'étaient absolument pas détectés il y a 20 ou 30 ans.
Ça serait passé complètement inaperçu.
Voilà. Mais c'est vrai que ça reste un mystère pour les infectiologues, cette rupture de barrière d'espèce. Comment se déclenche une épidémie, ça fait partie des choses qui ne sont pas élucidées.
Et qu'on recherche toujours d'ailleurs pour le Covid. Professeur Olivier Bouchot, le péril fécal, une définition pour commencer. Qu'est-ce que recouvre cette expression ? Quel type de maladie ?
Alors c'est une expression un petit peu ancienne, mais qui finalement veut bien dire ce que ça veut dire. Le péril fécal, c'est toutes les maladies qui sont liées à une mauvaise gestion des déjections humaines. Alors classiquement, ça se limite aux déjections fécales. Par extension, ça peut aussi rejoindre les déjections urinaires, et notamment ça touche une maladie qu'on appelle la bilharziose. Enfin, les bilharzioses, parce qu'il y a une bilharziose digestive liée aux déjections fécales et une bilharziose urinaire liée aux déjections urinaires. Et l'ensemble des maladies qui sont liées à ce péril, au fait que tout simplement les populations ne puissent pas avoir accès à des toilettes isolées, type latrine, voire même toilettes modernes, entre guillemets, qu'on appelle classiquement le WC. Toutes ces maladies-là génèrent une mortalité considérable. Les seules diarrhées, principalement chez les enfants, sont responsables de pratiquement 2 millions de décès par an. Si on compare à la mortalité du paludisme dont on parlait tout à l'heure, la mortalité du paludisme actuellement, c'est un petit peu en dessous de 1,5 million.
C'est un quart.
C'est un quart. Alors, on parle beaucoup de paludisme, mais c'est très bien d'en parler, parce que ça reste, comme on l'a dit tout à l'heure, un vrai fléau de santé publique. Mais les diarrhées, qui sont plus anodines, sont un fléau encore plus important.
Et c'est vrai que ces maladies, on a compris, c'est lié à l'assainissement, c'est lié aux installations. Est-ce qu'on peut dire que c'est des maladies de la pauvreté ? Est-ce qu'en quelque sorte, quand on regarde une carte du développement, du sous-développement, on arrive aussi à une carte des zones et des populations concernées par ce péril fécal ?
Vous avez parfaitement raison. Si on prend une carte du développement et une carte de ces maladies du péril fécal, elles se juxtaposent parfaitement. Et on voit que des aménagements relativement simples, c'est-à-dire le simple fait de mettre un robinet d'eau dans une maison ou même dans un quartier, fait s'effondrer le nombre de maladies diarrhéiques et le nombre de maladies liées au péril fécal.
Est-ce que le choléra entre dans cette catégorie des maladies du péril fécal ?
Absolument.
Et c'est ce qu'on avait vu en Haïti lors de la grande épidémie, justement, les personnes qui allaient chercher l'eau à la rivière qui étaient contaminées.
Absolument.
Alors, des contaminations liées notamment aux conditions d'hygiène, on a énormément parlé des gestes barrières. Est-ce qu'il y a eu un effet, justement, que les populations, par rapport au Covid, fassent peut-être un temps plus attention, comme on l'avait vu aussi pour Ebola, avec des points d'eau qui ont été installés un peu partout. C'est vrai que maintenant, quand on va en Afrique, il y a ces grandes bassines, les robinets, on se lave les mains, il y a du produit vaisselle, on fait plus attention. En tout cas, il y en a aussi partout, dans les aéroports, tous les hôpitaux, etc. Est-ce que ça permet d'une certaine manière aussi de limiter le péril fécal ?
Alors, ça a certainement eu un impact. Pour le moment, les données chiffrées n'émergent pas encore vraiment, à part quelques études qui ont été faites, mais qui sont relativement partielles. Mais je pense que dans les mois qui vont venir, ou dans les années qui vont venir, on va avoir des données un petit peu plus solides. Ça me permet de faire quand même une petite parenthèse, parce qu'on a beaucoup parlé du Covid, notamment dans les pays riches. On n'a toujours pas une idée très précise de ce qui s'est passé dans les pays à faibles ressources et principalement en Afrique, ce qui pose quand même un vrai problème d'inéquité.
Dans la prise en compte des cas.
Exactement. Alors, moi je suis par exemple très lié à un pays qui s'appelle le Burundi, où j'ai vu de près ce qui s'y est passé, et ils ont été très durement touchés par la Covid, ce qui est totalement passé inaperçu. Au Congo, en tout cas dans la partie est du Congo, où j'ai aussi des liens, eux aussi ont été très durement touchés. Et tout ça passe un petit peu sous les radars, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en Afrique subsaharienne.
Touchés en termes de contamination ou de pertes humaines ?
Eh bien les deux, les deux.
Pourtant, il y a vraiment des discours contradictoires à ce sujet, disant que, entre guillemets, le continent a échappé. Le problème pour vous aujourd'hui, c'est plus de rendre compte de ce qui s'est passé réellement, parce qu'il n'y avait pas les outils disponibles pour le faire.
Il n'y avait pas les outils disponibles, à la fois les outils de surveillance de façon générale, à la fois les outils de diagnostic de l'infection à Covid. Au Burundi, par exemple, la capacité de diagnostiquer de façon précise la Covid était extrêmement réduite, pour ne pas dire nulle de façon générale en termes de santé publique. Et donc, évidemment, pas de diagnostic, pas de maladie. Mmh. Alors que dans la réalité des faits, mes collègues qui travaillaient sur le terrain voyaient bien que c'était une maladie qui ne pouvait pas être autre chose que la Covid. Mais c'est passé sous les radars.
Professeur Christophe Rapp.
Oui, je voulais rajouter, effectivement, il y a des études de séroprévalence faites en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui montrent que les taux d'attaque dans la population étaient supérieurs à 10-15%. Et dans mon établissement où on s'intéressait à regarder si les patients africains avaient été en contact avec le coronavirus alors qu'ils déclarent aucun symptôme, on a des taux de sérologie, un taux de positivité qui est élevé. Donc finalement, le nombre de sujets infectés est très supérieur à ce qui a été annoncé. Alors la jeunesse du peuple africain fait qu'effectivement le nombre de formes graves est sans doute moins important, mais ils ont été en réalité tout à fait touchés. Et il y a des pays, à l'heure où on parle, où le virus circule activement avec le variant Delta.
Alors, on revient à ce péril fécal. J'y tiens, professeur Olivier Bouchot. Aux yeux des cliniciens, quand on parle prévention, qu'est-ce qui compte, on va dire, le plus ? C'est l'action globale sur les infrastructures ou sont davantage les comportements individuels ? En même temps, les comportements individuels sont conditionnés par les infrastructures.
Absolument. Paradoxalement, c'est pas si facile que ça à démontrer dans les études. On sait malgré tout que des comportements très simples et qui sont pas très coûteux peuvent considérablement réduire les effets du péril fécal. Le simple lavage des mains, la simple mise à disposition de savon, et même quand on n'a pas de savon, la simple mise à disposition d'un accès à l'eau, permet de réduire considérablement les conséquences du péril fécal. Donc ça, c'est pour les comportements humains, mais les comportements humains se gèrent aussi au niveau collectif par l'éducation sanitaire de façon générale. Et après, les infrastructures, à la fois en termes de prévention, c'est-à-dire, je reviens toujours à cette histoire de s'il y avait seulement un robinet dans chaque concession ou dans chaque ménage, on réglerait en grande partie les problèmes liés au péril fécal. Et puis, il y a l'accès aux soins et l'accès au traitement. Une diarrhée chez un très jeune enfant n'entraînera pas de grosses conséquences si on peut le réhydrater dans de bonnes conditions. Si ça n'est pas le cas, la mortalité devient effroyable.
Professeur Bouchot, dernière question sur ce point. On parlait tout à l'heure des forêts pour les fièvres hémorragiques, donc on comprend bien que l'environnement et le climat, ça joue aussi pour le développement de certaines maladies. Est-ce que c'est le cas pour le péril fécal ? Est-ce que le climat a une incidence sur la propagation de certains virus ?
Alors, de façon directe, non. De façon indirecte, oui, mais c'est par le biais des flux de population. C'est-à-dire, plus une population est concentrée, et plus ces maladies qui se transmettent de personne à personne, alors soit directement par les mains, soit par l'intermédiaire des matières fécales ou des matières urinaires quand elles ne peuvent pas être isolées, comme c'est le cas quand on a des latrines. Mais c'est surtout l'effet concentration, densité de population et brassage des populations qui intervient.
Professeur Jean-François Fauché, au sujet de la cartographie, là encore, géographie du paludisme. On va parler tout à l'heure de la prise en charge, mais si vous le voulez bien, pour commencer, en termes d'épidémiologie, les zones palustres, impaludées, je ne sais pas exactement quel terme est retenu, les parasites, comment est-ce qu'on comprend cette géographie du paludisme ?
Alors, les zones où il y a le plus de transmission du paludisme, et où la transmission du paludisme est la plus pérenne dans l'année, hein, ce sont les régions qui sont les plus proches de l'Afrique équatoriale. Hein. Et plus on s'éloigne de cette zone-là, vers le nord ou vers le sud, et plus on va avoir des phénomènes de paludisme saisonniers.
On a différents parasites. Est-ce que les parasites se répartissent de la même manière sur l'ensemble de la planète ?
Alors non, pas du tout. Hein. Donc en Afrique subsaharienne, on a pratiquement, si on veut être schématique, que du Plasmodium falciparum. En détail, ce n'est pas exact, hein, puisqu'il y a aussi du Plasmodium ovale, du Plasmodium malariae, un peu de vivax, hein, surtout dans des régions comme l'Éthiopie.
Si on parle au grand public, ce falciparium, il est méchant.
Voilà, c'est par excellence l'espèce plasmodiale qui va produire du paludisme grave.
Mmh. Et vous disiez tout à l'heure, les zones équatoriales, les zones forestières, on va dire, où il y a du palu toute l'année, dans d'autres régions, il y a des pics saisonniers, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Dans le Sahel, c'est essentiellement pendant 4 mois de l'année qu'on va observer le paludisme. puisque c'est la saison des pluies qui va produire de la transmission, puisque c'est à ce moment-là que les moustiques vont être le plus actifs.
Est-ce que la prévention, elle s'organise aussi en fonction de ces différentes caractéristiques ?
Ben oui, par exemple, la chimioprophylaxie du paludisme saisonnier chez les petits-enfants, c'est une démarche de santé publique qui dure 4 mois dans l'année et qui est justement faite pour les régions où il y a un paludisme saisonnier.
Ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas la proposer dans des zones plus proches de l'équateur.
Voilà, tout à fait, parce qu'il y aurait davantage de contraintes, probablement davantage d'effets indésirables des traitements, et puis on n'a pas d'évaluation à ce moment-là d'efficacité de cette intervention. Je voulais dire aussi quand même que la question de la concentration de population joue. Dans un pays comme le Nigeria, eh bien, il y a beaucoup de monde et il y a un nombre de cas de paludisme très important. En République démocratique du Congo aussi. Quand on regarde le nombre de cas, on est aussi confronté aux réalités démographiques.
Alors, le paludisme, maladie complexe, en termes de symptômes, en termes de séquelles possibles, mais il y a quelque chose à dire dans tous les cas, professeur Jean-François Fauché, c'est qu'il faut consulter vite, surtout quand on a un enfant, qu'il a de la fièvre, il faut consulter vite. Ça, c'est essentiel.
Oui, ça c'est un message essentiel. Hein. Encore une fois, de sources sûres, on sait que beaucoup d'enfants malades n'ont pas encore accès à un diagnostic précoce et puis à un traitement efficace. Hein. On voit arriver des enfants dans un état grave dans les hôpitaux et quand on interroge les parents ou les gardiens sur la manière dont ils ont été traités, s'ils ont été traités, parfois ils n'ont pas reçu de traitement du paludisme, ils ont reçu un antibiotique, alors qu'en fait le diagnostic c'était le paludisme. Et quand ils ont parfois, dans un certain nombre de cas, reçu un traitement antipaludique, eh bien on se rend compte que le traitement qui leur a été administré n'est pas du tout le traitement le plus efficace.
Et en termes de sévérité, de gravité et de risque de mortalité, vous diriez justement que le retard de prise en charge, c'est le facteur numéro un ?
Oui, pour la prévention des formes les plus graves du paludisme.
Et sinon, un enfant par rapport à un autre, il a les mêmes chances, les mêmes risques. Est-ce qu'on sait pourquoi certains vont faire des formes très graves et pas d'autres ?
Alors bon, il y a une part génétique, hein, effectivement, dans l'état naturel, tous les enfants qui vont faire un paludisme ne vont pas évoluer vers un paludisme grave. Mais comme on ne le sait pas à l'avance, pour la sécurité de l'enfant, eh bien, on diagnostique et on traite systématiquement tous les accès palustres.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Bien sûr.
Alors, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes. On va se retrouver ici à Marseille pour évoquer l'actualité des maladies infectieuses et tropicales. Ce sera juste après ce titre de Ghost Culture, Fallait Gnocchi avec ce titre Barqué. Priorité santé sur RFI, nous sommes toujours à Marseille pour parler des maladies infectieuses et tropicales à l'occasion de la 26e édition des actualités du Pharo, actualité de l'infectiologie en compagnie de nos trois invités, le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly, le professeur Olivier Bouchot, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny et le professeur Jean-François Fauché, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Limoges. Prévenir la transmission, améliorer la prise en charge. Quand on évoque une maladie comme Ebola, professeur Rapp. On a pu observer en l'espace d'une décennie des progrès importants du point de vue notamment des traitements, mais aussi de la façon d'informer, de sensibiliser les populations.
Oui, alors c'est un volet très important dans la riposte contre ces émergences, c'est éduquer la population et les communautés. Et dans la maladie virus Ebola, dans les premières épidémies, on a eu beaucoup de défiance de la population, beaucoup d'incompréhension, et notamment quand on voulait isoler les patients de leur famille avec des secteurs fermés, puis ensuite qu'on voulait faire de la désinfection dans les ménages, ça a été très compliqué. Il y a une dimension anthropologique très forte dans ces maladies qui surviennent souvent en zone rurale, dans des forêts profondes d'Afrique, et donc cette composante est maintenant prise en compte avec de la prévention, de la sensibilisation, des relais locaux qui sont impliqués directement dans la riposte de façon à avoir des meilleurs résultats. Mais rappelons-nous quand même que dans la dernière épidémie au Congo, au Nord Kivu, en pleine zone de conflit, ça a été quand même très compliqué. Il y a eu des soignants qui ont été tués. Donc c'est quand même toujours des interventions très complexes sur le terrain.
Et parmi justement les progrès, les nouveautés, c'est essentiel, il y a eu la mise à disposition d'un vaccin. Avec quel résultat ?
Alors il y a maintenant même plusieurs vaccins homologués dans le monde contre la maladie à virus Ebola. Mais le premier vaccin, qui est un vaccin vectorisé, qui a été développé sur l'épidémie de 2013-2016, est utilisé sur une stratégie qu'on utilisait dans le temps sur la variole, qui est une stratégie en anneaux. C'est-à-dire qu'on va vacciner les professionnels de santé et puis les contacts des cas infectés. Vaccination en anneaux qui s'est révélée extrêmement efficace sur le terrain, qui a été renouvelée lors d'épidémies de 2018-2020 au Congo. Mais on a également en développement des projets qui avancent en phase 2, en phase 3, sur une vaccination préventive qui serait plus en population générale pour prévenir la maladie à virus Ebola. Donc il y a vraiment, avec la notion de plateforme vaccinale aussi, une recherche très importante actuellement sur ces fièvres virales hémorragiques africaines.
Alors on apprend aussi sur la maladie dans la durée, avec le phénomène de réémergence qui a été observé en Guinée, et ça conduit vraiment à suivre les anciens patients sur le long terme.
Alors en effet, l'épidémie de 2021, c'est effectivement une transmission humaine à partir d'une infirmière infectée chez laquelle on a retrouvé la même souche Ebola Zaïre que l'épidémie 5 ans auparavant. Et donc ça pose la question des réservoirs. On sait maintenant, depuis le départ d'ailleurs, que le virus Ebola peut persister dans le corps sous forme de réservoir.
Et il peut virus dormant en quelque sorte.
Un virus dormant, voilà, un peu comme le VIH, et il peut se réactiver. Et donc là, il y a eu un cluster épidémique, 16 cas, 12 décès, à la suite de cette transmission humaine, et donc pas une nouvelle émergence de la maladie, pas de transmission à partir d'une zoonose. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant. Alors ça reste un phénomène exceptionnel, mais ça illustre l'intérêt du suivi prolongé des survivants, et ça pose de nombreuses questions sur notamment faut-il les vacciner pour augmenter leur immunité à long terme. Il faut certainement également trouver un antiviral. Il y a des anticorps monoclonaux dans la maladie à virus Ebola, mais on n'a toujours pas de médicament efficace contre le virus. Il serait intéressant de développer un antiviral qui pourrait éliminer ce réservoir. Donc ça pose de nombreuses questions passionnantes.
Tout à l'heure, on parlait justement de la prise en compte de facteurs culturels, locaux, pour Ebola. Professeur Bouchot, sur la pandémie, le Covid, on y revient. Est-ce qu'on a finalement été étonné des résistances ? Parce que aussi, ce qu'on vit actuellement en Europe, aux États-Unis, ce sont des formes de résistance. On n'a pas pris forcément en compte ces facteurs anthropologiques. La maladie, ça change la vie, ça change le deuil, ça change le rapport à l'hôpital. On n'a plus le droit d'aller voir un père, une mère, de lui passer la main sur le front. Tout ça, on n'y était pas préparé.
Absolument, et je pense que là, on paye une période des 30-40 dernières années où il y a eu des progrès énormes sur le plan de la connaissance scientifique et où je pense que les scientifiques et peut-être aussi la population a eu l'illusion que la technologie allait tout résoudre. Mais si on ne s'intéresse pas à côté de ça au phénomène purement humain de comportement, eh bien on va à l'échec. Et pour reprendre ce que disait tout à l'heure mon camarade Christophe Rapp sur Ebola, on a été en échec notamment en Guinée et au Sierra Leone au début parce qu'on a voulu appliquer la règle scientifique qui était que lors des enterrements, et malheureusement il y en a eu beaucoup, on ne touchait pas les corps, point. Or, pour beaucoup de populations, ne pas faire les rites mortuaires, c'est mettre en danger le défunt lui-même, mais mettre en danger toute sa descendance et de façon générale toute la communauté par rapport aux croyances traditionnelles qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc si on ne tient pas compte de ce phénomène-là, on va à l'échec. Alors on a appris progressivement à en tenir compte, mais on voit que si on veut faire le lien par rapport à la Covid, dans nos propres hôpitaux, moi j'ai essayé de lutter contre ça, mais ce n'est pas simple. Dans nos propres hôpitaux, on a interdit les visites aux patients qui avaient la Covid à leur famille, y compris aux personnes qui étaient en fin de vie. Je pense que ça n'est pas bien. On doit pouvoir encadrer cette période-là et priver une famille et priver une personne qui est en train de mourir du contact avec la famille. Il y a une déshumanisation là sur laquelle il faut qu'on réfléchisse beaucoup.
Autre réflexion, là c'est sur la lutte contre Ebola, on a perçu, même si on disait tout à l'heure que c'était compliqué hein, dans le Nord Kivu forcément à cause des conflits locaux, du suivi des patients cas contact, mais d'une certaine manière ça a plutôt bien marché sur Ebola ce suivi des cas contact. Pourquoi ce qui a marché sur cette fièvre hémorragique n'a pas marché pour le Covid? Parce que là c'est vrai qu'il y avait la fameuse formule des trois, tester, tracer, compléter s'il vous plaît professeur
Rapp,
isoler. Ouais. Ben, on a un peu raté le tracé, non?
Disons qu'on n'est pas dans la même dimension. Ebola, même si c'était spectaculaire, ça faisait 28 000 cas. Donc on n'est pas dans la même dimension. Là, on est une pandémie à transmission aérienne. Donc on est sur des millions de cas. Et donc la prise en charge des sujets contacts, le tracing, quelque chose de beaucoup plus complexe.
Et pour vous, professeur Jean-François Fauché, une maladie comme le paludisme, qui est vraiment ancrée dans le quotidien des populations, est-ce que, justement, sa prise en charge pourrait pâtir de tout ce qui s'est passé autour de cette effervescence autour du Covid? En début d'émission, on a parlé, par exemple, de la vaccination. On parle aussi de la vaccination, évidemment, pour toutes les maladies infantiles, les grandes maladies, avec des programmes de vaccination, non pas obligatoires, mais au moins gratuits pour une bonne partie des pays du Sud. Est-ce que tout ça, ça peut avoir un effet boule de neige, finalement, qui est une méfiance généralisée par rapport à tout ce qui est médecine, médecine occidentale, approche scientifique?
Alors là, on touche à des questions qui sont anthropologiques, hein, qui sont celles de l'hésitation vaccinale. Alors, on entend beaucoup parler d'hésitation vaccinale partout dans le monde, et je pense que l'Afrique n'est pas indemne de ce phénomène. Alors, il est bien évident que plus on va proposer des stratégies de vaccination complexes avec des injections multiples, plus on va être confronté à des difficultés d'adhésion des populations. Et c'est toute la difficulté de la santé publique. Il faut proposer des choses qui sont efficaces, mais qui sont acceptables aussi par les populations.
Et justement, même question à tous les deux. Professeur Bouchot, est-ce que le scepticisme, c'est contagieux? On parle d'infection, hein?
Oui, j'ai bien vu le lien tout à fait pertinent. Oui, le scepticisme est contagieux. Et surtout dans la frange de population qui n'est pas farouchement opposée, mais qui est dans le doute, qui est la plus grosse partie des hésitants vaccinaux. Il y a une toute petite minorité qui est de l'ordre de 2 à 3%. Ces personnes-là, on n'arrivera jamais à les convaincre. Bon, c'est leur choix, très bien. Mais il y a 30 à 40% de personnes qui sont parfois hésitantes, mais bon, ne sont pas farouchement posées, mais elles ont des doutes. Si autour d'elles, elles voient qu'il y a aussi beaucoup de doutes, ça va les entraîner dans l'approfondissement de leurs doutes, si je puis dire. Si à l'inverse, elles voient qu'autour d'eux, on se fait convaincre par la vaccination, ça va suivre dans le sens de la vaccination. Donc oui, il y a une contagion, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une contagion dans le sens de « je ne me fais pas vacciner », mais il peut y avoir aussi une contagion dans le sens « finalement, je vais aller me faire vacciner ». D'où toute cette compétence que malheureusement, nous médecins, nous n'avons pas sur la communication.
On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de notre émission. Priorité santé sur RFI à Marseille. Santé mondiale en zone tropicale. Et pour revenir à cette problématique de la pandémie, du tout Covid avec laquelle nous avons commencé, un tour de table, une nouvelle fois pour conclure. On a parlé du scepticisme associé à cette crise sanitaire. On a pu entendre aussi certaines voix regretter le manque d'attention, d'investissement pour ces maladies qui ne concernent pas les pays riches, ça on l'a bien compris aussi. Est-ce que ce raisonnement en termes presque de rivalité entre les pathologies, les moyens consentis, c'est quelque chose qu'on avait entendu pour le VIH-Sida par rapport aux grandes infections en disant finalement le Sida concentre toute l'attention, tous les financements, il ne reste plus grand-chose pour les autres maladies. C'est même pour ça que le paludisme avait été rajouté au lot des maladies. Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez pertinent ou pas du tout, professeur Jean-François Fauché?
Oui, alors évidemment, plus on est ambitieux dans les efforts de lutte, de prévention, de traitement précoce, et plus il va falloir investir des moyens considérables. et ça pose des problèmes politiques et géopolitiques, des problèmes financiers. Mais après, bon, au bout du compte, il faut savoir ce qu'on veut. Alors bon, après, savoir si on tire trop la couverture à soi dans un sens ou dans l'autre, c'est plus difficile d'en juger. Toujours est-il qu'on doit pouvoir continuer les efforts de lutte contre les maladies qui constituent des fléaux principaux. Le paludisme en fait partie, mais évidemment, il ne s'agit pas de tout axer sur la lutte contre le paludisme. Il faut aussi prendre en compte les autres fléaux de santé.
Et c'est vrai, professeur Olivier Bouchot, tout à l'heure, vous parliez du péril fécal, maladie diarrhéique de l'enfant, 2 millions de morts. C'est pas glamour, ces maladies. Il y a des maladies, on va dire, plus médiatiques que d'autres. Par exemple, Ebola, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui frappe les esprits. Il y a un imaginaire tragique autour d'Ebola qui est très puissant. On va dire, c'est quasi cinématographique, j'exagère pas. Quand je dis ça, il y a eu des films dessus, hein. Ça fait peur. Une diarrhée de l'enfant, ça n'intéresse pas grand monde. Finalement, est-ce qu'il y a une rivalité? C'est la même chose aussi, par exemple, pour les pneumonies infantile, on appelle ça la grande tueuse d'enfants. 1 million de morts de petits de moins de 2 ans en Afrique tous les ans. 1 million, c'est énorme. C'est plus que le VIH-Sida. Et pourtant, la pneumonie, qui en parle? Pourquoi certaines maladies, on en parle plus que d'autres?
Alors vous avez raison, il y a des rivalités entre les différents programmes et je pense que là ça pose un énorme problème sur lequel on est en train de revenir maintenant, qui est cette vision verticale des choses, où on fait un programme sur les pneumonies, on fait un programme sur la tuberculose, on fait un programme sur le paludisme, on fait un programme sur telle ou telle maladie, alors que la santé dans la réalité c'est totalement transversal. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne peut pas gérer la santé publique en réfléchissant en colonne. On met des moyens sur le paludisme et puis on verra après sur une autre maladie. On ne peut aborder la santé publique que de façon globale. Alors ça, c'est une idée qui commence maintenant à s'imposer, mais dans les faits, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et la rivalité en termes de financement entre les différents programmes est un véritable non-sens. Et à mon humble avis, la chose la plus importante qu'il faille faire maintenant, c'est redonner des moyens aux services de santé primaire partout dans le monde et particulièrement dans les pays en développement, parce que c'est en attaquant la santé publique par la base, par le bon sens, qu'on va pouvoir améliorer la santé globale.
Et c'est ce qui s'observe, professeur Christophe Rapp, sur le terrain, avec par exemple les relais communautaires qui s'occupent d'un paquet de maladies. Ils arrivent dans les villages avec des ressources en termes de tests et en termes de médicaments pour la pneumonie, pour la malnutrition, pour le palu. Ça veut dire que là, on a une approche qui est beaucoup plus centrée sur les réalités épidémiologiques.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier Bouchot. Là, c'est le problème de la stratégie intégrée. On ne fait une bonne médecine avec peu de moyens que si il y a une vision globale du patient. Et ça, c'est l'approche du clinicien. Mais en santé publique, c'est pareil. Donc là, Olivier Bouchot, il vient de dresser la fiche de poste d'un ministère de la Santé dans un pays d'Afrique. C'est tout à fait ça. Vous avez une enveloppe globale et vous devez ensuite prioriser vos actions et ne pas vous laisser aller à l'actualité. Et c'est pour ça que les choses simples, par exemple, l'assainissement est un élément plus important pour un pays que l'achat d'un vaccin nouveau qui va impacter beaucoup moins sur les indicateurs. Donc il faut vraiment reprendre les principes de priorisation et de vision globale, et notamment si on parle de santé globale où on a aussi une compétition entre la médecine animale et la médecine humaine, alors que maintenant on devrait travailler la main dans la main comme on le fait nous les infectiologues, on a un peu cette habitude.
Une seule santé.
Voilà, c'est vraiment la bonne vision.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation ici à Marseille. Professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly. Professeur Bouchot, responsable du service des maladies infectieuses au CHU Avicenne de Bobigny. Professeur Jean-François Fauché du service des maladies infectieuses du CHU de Limoges. Merci beaucoup à tous les trois et à très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Assez tout, Samaké, Louise Calédec, ici à Marseille, Victor Hull et dans nos studios Didier Bleu. Lundi, nous retrouvons les studios de Priorité Santé pour une émission consacrée au sport, à l'activité physique, à la nutrition. On va donc parler prévention avec nos chroniqueurs, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, Stéphane Besançon, nutritionniste, expert du diabète. On répondra à toutes vos questions en direct. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.